force important, puisque le régime irakien a été balayé rapidement. Apparemment, ce n'est pas non plus beaucoup défendu, et ceci n'est pas le plus important. Je crois que cette guerre en Irak n'est pas seulement porteuse de l'illustration de cette stratégie de force, qui donc ne veut admettre aucun rival, aucune concurrence dans la défense des intérêts stricts des États-Unis comme puissance, hyperpuissance mondiale, mais que cette guerre est aussi caractéristique du fait que cette stratégie se heurte à des contradictions importantes. Au fond, on peut même se demander si Bush n'est pas en train de découvrir que sa politique se heurte simplement au dur pépin de la réalité. D'abord, il y a eu pendant toute la préparation de la guerre, la montée d'un très puissant mouvement anti-guerre. Je crois qu'on peut dire sans exagérer que le monde entier était contre la guerre. Le monde entier, c'est-à-dire que les opinions publiques, dans tout le sud de la planète, et dans tout le tiers-monde, en Europe, juste en Grande-Bretagne, contre M. Blair, et même aux États-Unis, où il y a eu plusieurs centaines de villes, où il y a eu d'immenses manifestations avec plusieurs centaines de milliers de manifestants, avec des rassemblements très divers. Mais alors, vous oubliez ce qui s'est passé en France, en Italie, en Espagne, ailleurs, ou en Italie, où on est allé jusqu'à 3 millions de manifestants. En France, on a eu 400 à 500 000 manifestants à Paris le 15 février. D'ailleurs, il y a eu un mouvement anti-guerre inédit du point de vue de son universalité, je voudrais dire, de sa puissance, de sa signification politique. Ça veut dire que, au fond, le monde entier était contre la guerre, était donc en opposition avec la politique américaine, cette stratégie guerrière. Et en même temps, je pense que fondamentalement, il y avait une réelle conscience politique dans l'ensemble de ce mouvement, à des degrés divers. Et quand même, je pense réel, en tout cas en beaucoup en Europe, sur le fait que la démocratie est aussi un grand enjeu, et pas seulement la paix et la sécurité. Et qu'on ne peut pas accepter, quand on est un homme, une femme de progrès, la cruauté de la dictature de Saddam Hussein. Son caractère profondément inhumain et inacceptable. Donc dans toutes les manifestations qui se sont tenues en France et je sais ailleurs en Europe, à la fois l'idée que la guerre et la stratégie américaine sont inacceptables, a été toujours accompagné de l'idée qu'il faut apporter notre solidarité avec les forces progressistes irakiennes contre la dictature. C'est exprimé très clairement. Je pense que c'était très important pour tout le monde, notamment pour les Irakiens, mais aussi pour tout le mouvement progressiste et pacifiste français, européen et américain. Ça, c'était toujours très important. Je pense que ça laissera des traces. Parce que, au fond, ce mouvement anti-guerre a été très fortement convergent du mouvement intermondialiste. Quel vous êtes partie prenante, et pour dire comme nous, communistes français, avec d'autres associations, mouvements, syndicaux, associatifs et autres, sont partie prenante. Je crois que c'est très important de voir que dans le monde entier monte aujourd'hui ce genre de mouvement qui, au fond, converge sur des exigences de démocratie, de sécurité, de paix, de développement. La deuxième chose que je veux dire, et qui est à mon avis aussi très importante, et il faut le dire en examinant l'actualité de ce qui se passe en Irak, c'est que les États-Unis se heurtent aussi à une autre forme de contradiction, ou à une autre phase de contradiction plutôt, pour excuser ça. C'est que, au fond, comme on dit vulgairement en français, ils ont eu probablement les yeux plus gros que l'autre. Ils pensaient, peut-être beaucoup avec l'illusion, qu'il suffit de renverser Saddam Hussein et les problèmes se régleront également. Non. Ils se heurtent à un chaos, à des difficultés, à un mécontentement profond de la population irakienne, à des résistances dans l'ensemble des forces politiques irakiennes, ils ont dû faire quelques compromis non négligeables, pas suffisants, au lieu des progressistes de dire tiens, c'est tout à fait faire, ils l'expriment, ils le disent. Et je crois que c'est une découverte pour eux. J'exagère peut-être, mais je pense qu'ils mesurent la difficulté qu'il y a. Il ne suffit pas d'être une grande puissance militaire politique pour pouvoir régler les problèmes. D'ailleurs, si l'on observe bien, au fond, chaque fois qu'il y a eu une intervention de ce type, qu'on prenne l'exemple de la Somalie, de l'ex-Yougoslavie, de l'Afghanistan, aujourd'hui de l'Irak, aucun des problèmes n'a été fondamentalement résolu. On en est toujours dans des situations de chaos, de difficultés, de contradictions, d'états en déliquescence, de divisions, de situations de guerre civile non réglées, ou non réglées durablement, avec des tensions internes comme en Ex-Yougoslavie. En Afghanistan, on a donné un coup de pied dans la fourmilière des talibans, et les fourmis courent toujours, et George Bush en a mal les chaussettes. Ben Laden est toujours vivant, le Mollah Omar court toujours, c'est un objet. Rien n'est arrivé. Et en Irak, ils sont dans une grande difficulté. Ils ont aujourd'hui quelques 65 soldats tués, un, deux soldats sont tués tous les jours. Je crois que c'est la manifestation d'une très grande difficulté. Mais c'est en même temps, cette situation-là, un problème pour tout le monde. Enfin, personne ne peut se réjouir de ce qui arrive. Le chaos, c'est-à-dire le mécontentement des Irakiens, il prend racine sur des problèmes réels. Ils ont besoin de l'électricité, de l'eau, ils ont besoin de la sécurité. Les femmes ne peuvent plus sortir, il est difficile d'aller travailler sans se faire agresser, il ne faut pas sortir en voiture sans se faire agresser, il n'y a pas de stabilité qui puisse permettre le développement économique, la sécurité globale, la reprise des activités économiques et sociales, c'est un problème. Je crois qu'il y a ces difficultés, d'ailleurs je pense que les graves attentats qu'ils ont eu, je pense à l'attentat qui a frappé le siège des Nations Unies, que nous avons condamné avec la plus grande énergie, c'était absolument intolérable, visait en fait à une forme de maintien du chaos, très très défavorable pour le peuple irakien. Je crois que l'issue pour nous, pour le peuple irakien, évidemment, se trouve, et nous allons peut-être en parler de façon plus substantielle, mais pas dans la poursuite de cette situation grave.
Oui, je me souviens que c'était avant la guerre, au temps des réunions, que c'était 13 ans, lorsque j'étais là, à Nanterre. Tu disais que l'objectif des Américains, parce que c'était à ce moment-là, ça se posait cette question. Tout le monde posait, même aujourd'hui, on se pose la question, quel est vraiment l'objectif américain? Vu même les résultats, alors on croit que peut-être ils sont de fous, qu'ils n'avaient pas imaginé les conséquences. Alors que, tu pensais que c'est sur une question de maîtrise de l'énergie au Moyen-Orient. C'est-à-dire, tu expliquais que ce n'est pas de commerce simple, que les Américains ne vont pas occuper l'Irak pour devenir de commerçants simples de pétrole d'Irak. C'est-à-dire, c'est la main mise sur des stratégies à la longue de ressources énergétiques. Alors, est-ce que tu penses toujours que c'est ça l'objectif des Américains, c'est le contrôle de ressources énergétiques, et ça peut aller jusqu'à où? C'est-à-dire, c'est pour menacer qui? L'Europe, la Russie, tout ça, est-ce qu'il y a des objectifs militaires aussi dedans? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas les Américains qui sont pas, parce que les Américains, ils n'avaient pas force terrestre. C'était une force avant, c'était une force aéronavale agressive. Mais maintenant, on voit qu'ils ont une force terrestre, ils sont en train de s'entraîner aussi peut-être. Alors, est-ce que ça se limite dans cette région où c'est plus loin que les stratégies? Et qu'est-ce que ça veut dire contrôler les ressources énergétiques?
Je crois qu'on ne peut pas comprendre la stratégie américaine, c'est un préalable à mon avis, que je vais dire après, si l'on ne se réfère pas aux conditions politiques internes des États-Unis. Je crois fondamentalement que, en général, et surtout après le 11 septembre 2001, aucune administration américaine n'aurait pu rester sans réagir, et ils ont réagi avec leurs propres critères politiques, c'est-à-dire en fonction de leurs options idéologiques. C'est-à-dire, en voulant montrer aux citoyens américains qu'ils construisent une véritable réponse stratégique militaire, en l'occurrence, à l'agression dont ils ont été victimes. Et naturellement, nous, communistes français, nous avons condamné à la dernière énergie l'attaque terroriste magistrale énorme du 11 septembre 2001. Et la réponse apportée à la population, aux inquiétudes, aux peurs de la population américaine n'est certainement pas la bonne. D'ailleurs, à l'évidence, une partie de la population américaine aujourd'hui, et pas seulement les parents des soldats engagés en Irak, réagissent assez négativement à la politique de George Bush. Je crois d'ailleurs que si le lien entre Al-Qaïda et le régime de Saddam Hussein n'était pas évident, aujourd'hui les Américains ont introduit le terrorisme en Irak. Ça paraît seulement évident que d'une certaine façon, ils ont produit, leur stratégie a produit du terrorisme en Irak. C'est un point un peu à part. Donc ça, c'était un préalable. Moi, je crois qu'il y a trois types de raisons fondamentales dans la guerre que les États-Unis ont fait contre l'Irak. Je ne mets pas de hiérarchie dans ces trois raisons, mais je vais commencer par l'énergie, puisque tu me poses la question. Je crois que l'intérêt pétrolier est tout à fait majeur. Mais on ne peut pas l'expliquer de façon simpliste, en disant les Américains veulent s'emparer du pétrole irakien. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et que ça peut s'expliquer. Moi, j'ai déjà expliqué parce que j'ai écouté des spécialistes des enjeux énergétiques qui disent très bien qu'au fond, la perspective énergétique dans les 10, 20 ou 30 prochaines années, il y a une hésitation sur la période, mais ça se situe dans cette autre chose-là, va changer puisque, au fond, il va y avoir une continuation de la montée de la consommation du pétrole, disons des hydrocarbures en général dans le monde, avec une montée de la consommation dans les pays du tiers-monde, dans un certain nombre de pays du tiers-monde, pas tous, la Chine et ailleurs, et aussi aux États-Unis, qui est un très gros consommateur, un très gros importateur de pétrole, et qu'en même temps, on va avoir un décrochage, puisqu'il va y avoir un certain nombre de réserves pétrolières qui vont commencer à arriver ou qui seront arrivées à un point d'épuisement, de début d'épuisement ou déjà en cours d'épuisement. Et ça touche notamment un certain nombre de pays qui exportent les hydrocarbures aux États-Unis, notamment de l'ensemble du continent américain. Donc, je crois que une partie de la stratégie américaine, c'est de faire face à cet enjeu d'avenir et de dire au fond, il nous faut maîtriser un ensemble de pays producteurs de pétrole pour pouvoir assurer des importations suffisantes dans 10, 20, 30 ans, lorsqu'il y aura ce décrochage, qui est reconnu par l'ensemble des spécialistes mondiaux, américains comme européens, comme français, des spécialistes du pétrole, à mon avis, c'est très important. On ne peut pas négliger cet intérêt qui est un véritable intérêt stratégique et qui nous pose à nous tous un énorme problème qui est celui plus généralement des approvisionnements en énergie, de la diversification en ressources énergétiques. Donc des politiques énergétiques de la France et des pays européens. Je crois que là, il y a un grand enjeu à bien examiner. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais c'est l'intérêt de toutes les forces politiques et françaises, et notamment progressistes, de regarder avec une très grande attention ça. Parce que la France, comme tous les autres pays européens, n'ont pas intérêt à être dépendants d'une seule ressource énergétique, ont intérêt à diversifier leurs ressources, et surtout ont intérêt à évaluer leurs ressources énergétiques en fonction des nécessités en matière d'environnement, de préservation de la planète, c'est aussi c'est un enjeu important pour l'avenir. Tous ces enjeux-là. Deuxième raison de la politique américaine, je crois qu'à l'évidence, et c'est en lien, à mon avis, avec les questions politiques intérieures, c'est la volonté, l'expression non dissimulée d'une volonté de l'hégémonie régionale. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre et pour constater que la région du Moyen-Orient est une région installée, qui produit des instabilités politiques, sociales, à force de contradictions, à force de fractures sociales, et avec la montée de forces intégristes, extrémistes, dangereuses, que tous les peuples ont intérêt à combattre. Je crois que ceux qui font le calcul d'un rapprochement de certaines formes d'alliance ou de certaines formes de complaisance vis-à-vis de l'intégrisme comme une forme d'anti-impérialisme trompe lourdement. Il ne peut pas y avoir là de convergence terrible, à notre avis, pour la mise en œuvre d'une politique anti-impérialiste responsable et de, disons, qui se situe dans la longue durée, mais n'est pas l'immédiat. D'ailleurs, au fond, les États-Unis mesurent à quel point, au fond, quand on joue avec le feu, on se brûle. Car qui avait soutenu, pour ne pas dire plus, certainement armé, aider à se structurer, à se développer, légitimer, cautionner les intégristes, par exemple, en Afghanistan, la régime d'Al-Qaïda, sinon, les États-Unis. Moi-même, je suis allé au Pakistan en 1983, à la frontière afghane, dans les villages que j'ai traversés, j'ai vu des pyramides de caisses de munitions qui portaient la mention, il y en avait 7. Par un hasard, ça l'est. Donc, je pense qu'ils mesurent aujourd'hui les dégâts de leur propre politique. Que ce soit au Moyen-Orient, ou en Algérie, ou ailleurs. Et que d'une certaine façon, ils sont en train de rebattre toutes les cartes du Moyen-Orient pour se redonner les moyens d'une domination, d'une stabilité propre, ou d'une instabilité propre à leurs propres intérêts régionaux. Ils mesurent à quel point l'Arabie Saoudite est un pays fragile. La Jordanie aussi. À quel point, par contre, l'Irak pourrait être un pays stable pour eux dans l'avenir, s'ils parviennent à faire en sorte que ce pays rentre dans l'orbite anglo-saxonne, des dominations anglo-saxonnes. Je pense qu'il y a dans la volonté américaine, dans la stratégie américaine, une sorte de stratégie de rupture d'équilibre pluriel, c'est-à-dire de prendre conscience que on est dans une crise globale, et qu'il faut faire face à cette crise, et qu'on a besoin dans ce cadre d'une redistribution des cartes, une redistribution des zones d'influence, et que pour cette raison, les Américains ont donné des coups de pied à la frontière, en Afghanistan, en Irak et ailleurs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'écrase pas les fourmis, on les éparpille et les problèmes restent. C'est parti. Et on assiste à une dissémination des actes terroristes et des réalités du terrorisme. On a une montée d'intégrisme à même au fond l'affirmation de certaines puissances qui ont dans l'idée qu'au fond l'arme nucléaire serait peut-être une meilleure défense, etc. C'est-à-dire, au lieu d'obtenir plus de sécurité, les États-Unis et le monde entier obtiennent moins de sécurité. Troisième raison, je pense, de la stratégie américaine, on la retrouve, je crois, à tous les grands moments de la mise en œuvre de cette stratégie, on la retrouve au moment de la guerre du Golfe, c'est la validation d'un leadership euro-atlantique. Je dirais occidental, pour aller vite, même si aussi on doit peut-être y mettre d'une certaine façon le Japon qui reste quand même un peu à l'écart. Mais je crois qu'il y a à chaque fois la volonté américaine de situer l'hégémonie comme nous ne supportons pas, ne pouvons pas supporter une quelconque rivalité, qu'il s'agisse pour l'avenir de la Russie ou pour éventuellement demain des Européens. C'est une façon, la guerre de Golfe, comme ce qui s'est passé en Irak, de crédibiliser l'idée pour les États-Unis qu'il n'y aura pas d'Europe puissante en dehors d'une hégémonie américaine militaire et politique acceptée ou imposée. Ça s'est dessiné très très fortement au moment de la guerre du Golfe. C'était très clair au moment de l'éclatement yougoslave et de la guerre en ex-Yougoslavie. Je crois que des justifications profondes des interventions américaines au Kosovo, c'était cela. C'était pour montrer que dans un conflit majeur en Europe, les États-Unis détiennent et la clé politique et la clé militaire. Je peux l'expliquer de façon plus détaillée, naturellement, si vous voulez. Et concernant l'Irak, je crois qu'il y avait aussi, à l'évidence, la volonté de dire, nous, dans ce nouveau contexte ouvert, après non seulement la chute du mur et le 11 septembre, mais cette guerre en Irak, nous sommes là vraiment l'hyperpuissance hégémonique et tout le monde devra en passer par notre tutelle politique, pour aller pour la vie.
Et quand je parle de l'Europe, même il y a cette idée dans le mouvement intermondialiste, qu'on va avoir une forme sociale de l'Europe, ça va se dérouler à Paris, à Saint-Denis, le 12 novembre. Alors, dans la préparation de cette forum sur l'Europe, on voit cette idée qu'il y a beaucoup de gens, même intermondialistes, qui croient en face de menaces américaines, il faut accélérer l'identité européenne. Même, il y avait l'université de l'attaque, il y a quelques jours, il y avait un article à l'Humanité, que même ce genre de mouvement aussi pense qu'il faut accélérer la construction européenne et l'identité européenne. Et est-ce que ça, premièrement, est-ce que ça peut faire vraiment le poids en face des Américains? Est-ce que c'est réel cette idée déjà? Deuxièmement, est-ce que ça ne va pas dire la guerre? C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas dire la préparation de la guerre? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'impérialisme américain, mais il y a le petit impérialisme. France, Allemagne, tout ça, on ne peut pas oublier le petit impérialisme. On ne peut pas inviter les autres parties du monde pour renforcer cette identité européenne. Est-ce que ce n'est pas la solution pour l'Europe, aller directement, au lieu de chercher l'identité européenne, et aller sur primauté d'action internationale sur l'identité européenne?
La question européenne est une question vraiment très très importante. Je crois qu'on ne peut pas penser l'avenir français, l'avenir de la France et des différents pays européens sans aborder cet enjeu européen. Et là, comme sur cet enjeu-là, comme sur l'enjeu de la stratégie américaine et des enjeux globaux, il faut ne pas avoir peur de plonger dans la complexité de moi-même. Je crois qu'il y a une idée. Je pense qu'on ne peut pas penser l'Europe de façon simple. Nous sommes dans l'Europe aujourd'hui. La construction européenne est une réalité. Pas seulement incontournable, qui modèle la vie économique et sociale de tous les jours. Dieu. Donc l'enjeu n'est pas de savoir si nous voulons ou si nous ne voulons pas de l'Europe. L'histoire, elle se fait. L'enjeu pour les progressistes, les communistes, comme pour tous les jours, c'est de savoir quel type d'Europe nous voulons construire. C'est un enjeu proprement politique. Nous voulons construire l'Europe. Mais nous critiquons, nous voulons transformer la construction actuelle. De la même manière que nous ne pouvons pas nous contenter de la politique du gouvernement français actuel et de ce qu'il fait de la France et de son projet pour la France, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas nous contenter d'accepter le projet européen tel qu'il se dessine et se construit depuis des dizaines d'années, depuis, disons, 1951, 1957, très bien. Nous voulons transformer cela profondément. Alors, est-ce que l'Europe peut constituer un contrepoids suffisant à la puissance américaine? C'est ce que certains à droite et de la gauche pensent. Est-ce que ça peut conduire à une guerre? J'ai quelques doutes. Mais je pense que ce n'est pas la solution. Je crois qu'il y a un avenir de l'Europe, et notamment de la France, en Europe, à condition qu'on pense et qu'on construit l'avenir de l'Europe différemment, et qu'on donne à l'Europe un autre rôle. Tous les pays, les peuples et les progressistes concernés attendent autre chose de l'Europe, et de la France notamment, que les États-Unis. Et d'ailleurs, ça se sent. La politique européenne n'est jamais tout à fait la même que celle des États-Unis. Notamment au Proche-Orient. C'est pour cette raison que nous, communistes, nous nous hérissons de ces contradictions gallo-américaines qui sont réelles et des sentiments qui existent dans la population française, dans la population européenne, des espoirs qui existent pour dire mais qu'attendons-nous pour construire autre chose et pour que l'Europe de demain et même d'aujourd'hui pèse autrement pour une autre politique, sur d'autres objectifs, sur d'autres principes. Et nous voulons donner de la crédibilité à cette idée-là, nous voulons construire un rapport de force politique en France et en Europe sur cette option-là, sur cet espoir-là, sur cette idée-là. C'est un levier important. Est-ce que c'est un levier crédible? En tout cas, je pense que c'est une alternative crédible. Il nous faut la construire. Je crois qu'il y a en Europe aujourd'hui beaucoup de forces progressistes, communistes ou autres, qui ont le même type de préoccupation et qui veulent défendre le même type d'option. Je crois qu'il faut qu'il y ait, dans l'ensemble de ces forces progressistes européennes, qu'elles soient des forces politiques, syndicales, sociales, pacifistes, féministes, écologistes ou autres, un vrai débat de fond sur l'Europe que nous voulons. Et des convergences. Je crois que nous pouvons gagner à condition qu'on en fasse un vrai débat politique populaire, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte que ça devienne une exigence des citoyens, un vrai débat de citoyens. Donc nous pouvons gagner à ces idées-là. Enfin, comment nous abordons-nous la question européenne? Je ne dis pas que c'est facile, qu'on peut gagner d'avance. Nous n'avons pas l'illusion de l'Europe puissance, et c'est pour nous une option négative que nous combattons. Parce que penser l'Europe comme, comment dire, un concurrent ou un rival des États-Unis, ça veut dire qu'on aura de toute façon toujours plus fort que nous, plus militarisé que nous, plus agressif que nous, la politique américaine. Ça voudrait dire aussi qu'il faudrait augmenter les budgets militaires. Adopter une politique plus agressive d'intervention militaire, cela nous n'en voulons pas, nous le critiquons, nous le démontrons, nous le combattrons avec tous les progressistes français et d'autres. Pour nous, c'est extrêmement clair, très négatif. Et nous voulons, parce que c'est le moment où nous croyons, présenter plutôt et rassembler plutôt en positif sur l'option du autre Europe. Parce qu'il y a dans la population française un grand espoir d'alternative. Et nous voulons nourrir l'idée qu'il y a une issue. Le plus grand danger, c'est d'être face aux réalités de la stratégie américaine et de ses dégâts sans réponse. Ça, ça serait terrible pour les communistes et progressistes. Ça voudrait dire qu'on contribue au désespoir. Déjà, il n'en faut pas beaucoup pour être mal, pour avoir des sentiments de désespoir face à ce qui se passe au Proche-Orient, en Palestine et ailleurs. Donc il faut vraiment examiner la situation et les possibilités de cette situation avec la plus grande attention, rassembler les énergies et les possibilités sur la crédibilité d'une alternative politique.
Je voulais revenir sur l'Irak. Et qu'est-ce que tu penses sur le conseil provisoire en Irak et la participation du Parti communiste d'Irak dans cet conseil? Parce que du point de vue du mouvement altermondialiste, c'est pas acceptable le conseil national, parce que ça fait questionner la solution américaine. C'est-à-dire comme quoi il n'y avait rien passé, c'est-à-dire il n'y avait pas une guerre, et maintenant on s'est devant une situation obligatoirement. Est-ce que tu penses pas que, par exemple, le Parti communiste d'Irak, il avait de possibilités d'un contact très large avec la population irakienne? Et pour te dire, par exemple, là, cette contradiction, on le voit même dans l'humanité. C'est-à-dire quand on regarde l'humanité sur les questions de l'Irak, des actions contre les Américains, c'est tout le temps cette idée, tout ça, et même il y avait le Parti communiste d'Irak qui disait que faites attention, leur représentant en France, faites attention, c'est pas le mouvement de la libération d'Irak, c'est pas des armées de population irakienne. Alors, ça, est-ce que idéologiquement, et au niveau mondial, parce que maintenant tous les portées des choses, d'accord, c'est mondial maintenant, le sujet est mondial. On ne peut pas prétendre que la solution est nationale, de chercher une solution tout à fait nationale, sans regarder les avis mondiaux et idéologiquement, de voir les valeurs des décisions qu'on prend. Alors, et dans le cas où il y aura plus de chaos en Irak, quelle sera la stratégie de... Comment il va répondre le Parti communiste d'Irak à cette participation?
Moi j'ai un avis un peu différent. Je pense que le cas irakien est historiquement particulier. Ce pays sort de plusieurs dizaines d'années de tragédies qui sont des années de guerre, la guerre Irak-Iran, la guerre du Golfe, puis cette guerre-là, et des années de dictature. Et lorsqu'un pays sort d'une telle épreuve, il a beaucoup de choses à reconstruire. Et le plus facile, c'est toujours de reconstruire les routes, les immeubles, les bâtiments, tout ce qu'on veut. Le plus difficile à reconstruire, ce sont toujours les institutions, les politiques. Parce que là, on a affaire plus complexe ou à l'humain, au politique. Moi, je comprends la position des communistes irakiens parce que je pense qu'ils ont mesuré à la fois l'urgence et la profondeur des problèmes. Et je pense qu'ils ont mesuré leur responsabilité. Je crois qu'ils ressentent la nécessité de répondre à l'attente du peuple irakien, qui est une attente de reconstruction, et de reconstruction immédiate. Et pour que cette reconstruction se fasse dans les meilleures conditions, il faut que ce pays-là retrouve une souveraineté et les moyens institutionnels et politiques qui vont pouvoir permettre de reconstruire concrètement le pays. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'il participe à un conseil transitoire de gouvernement, mais l'instant où c'est pour eux, comme ils le disent à mon avis à juste titre, c'est un champ de lutte comme l'autre. Et d'ailleurs, ils le précisent dans la base code. donc ils sont devenus populaires. Je crois qu'ils mesurent bien les risques et les difficultés. Moi, je crois sincèrement que c'est au peuple irakien de juger comment il va faire. Mais il faut donner au peuple irakien les moyens de son indépendance, de choix et de jugement. Je crois que être partie prenante à toutes les instances possibles de cette bataille politique et sociale est une très grande importance. Le Parti politique irakien a fait un choix qui, je crois, qui est à notre avis honorable. Ce n'est pas parce que nous, Parti communiste français, nous avons des relations anciennes, très excellentes avec ces partis-là que je dis ça, je pense que c'est un bon choix. Je crois comprendre ce qui se passe en Irak en écoutant les Irakiens qui reviennent. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui en Irak, personne, aucune force politique, j'entends, ne réclame l'exigence d'un combat militaire, d'un combat armé contre l'occupant, parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'opportunité, ce n'est pas possible, ce n'est pas la solution. Je crois qu'ils ont, tous progressistes et autres, une immense bataille politique qu'on vit dans un rapport de force compliqué pour gagner face aux Américains la possibilité d'une alternative démocratique durable pour exclure tout retour en arrière. Saddam Hussein ne reviendra jamais, mais pour exclure à la fois le retour d'un régime autoritaire ou la mise en place d'un régime, ultralibéral à la solde des Américains. Il y a donc une bataille politique extrêmement forte qu'ils devront mener. Ils l'expliquent très bien. Donc, moi, à la limite, je me demande si je dois juger leur choix ou pas. Mais puisque vous me posez la question, j'y réponds. C'est plutôt un jugement
d'articapable. Alors, encore deux questions après. C'est sur le rôle de Nations Unies, c'est-à-dire les Américains, ils ont commencé la guerre avec mépris vis-à-vis de Nations Unies. Et alors, pour les forces révolutionnaires, les communistes, quelles attitudes on doit prendre vis-à-vis de Nations Unies? On voit qu'il n'a pas de puissance, il n'arrive pas même à se défendre. Alors, est-ce qu'on doit défendre une force qui n'arrive pas à se défendre même déjà? Est-ce qu'on doit alors repousser qu'il vienne sur la scène internationale? Ou est-ce que ce n'est pas le moment de le contourner pour la force communiste, la révolutionnaire? Parce qu'il avait, un rôle pas mal de voix très hypocrite. Alors est-ce que ce n'est pas une occasion de le laisser de côté?
D'abord, je voudrais corriger quelque chose de ce que je viens de dire. J'ai fini en disant que je suis assez favorable. J'aimerais que vous corrigiez ce que je viens de dire. J'y suis très favorable. S'il vous plaît. Parce que c'est vrai. Alors, la question de l'ONU. Il y a d'abord une question de, comment dire, d'appréciation sur ce que représente l'ONU. Pour nous, l'ONU, c'est à la fois une institution porteuse de principes, de valeurs, avec une charte, et c'est en même temps une institution qui est au nom des principales puissances. C'est notamment qui dépend, qui fait ce que les principales puissances lui disent de faire, c'est en particulier les États-Unis. C'est-à-dire c'est une institution qui comporte en elle des contradictions fortes et fondamentales. On a vu d'ailleurs comment les États-Unis ont soit écarté, soit instrumentalisé complètement l'ONU, au gré des circonstances, qu'il s'agisse de la guerre du Golfe, ou bien de la guerre en Ex-Yougoslavie, ou bien aujourd'hui de la guerre en Irak. Pour nous, c'est une politique inacceptable. Nous, communistes français, nous défendons l'ONU dans ce sens que nous pensons qu'il faut s'appuyer sur la charte des Nations Unies, les principes qui font cette charte, les valeurs dont elle se réclame, les révolutions positives qui ont contribué ou qui peuvent contribuer à résoudre des conflits dans le passé ou peut-être dans l'avenir. Et qui faudrait que les Nations Unies soient le lieu où une universalité, un multilatéralisme véritable s'exprime, s'affirme contre les politiques de puissance précisément. Mais ça n'est pas donné, ça n'est pas facile, parce qu'on est précisément face à une situation où les Américains veulent instrumentaliser ou écarter les Nations Unies. Je crois qu'en Irak, pour être plus précis, les Nations Unies ont cherché à jouer un rôle de modérateur plutôt positif. Ça veut dire que Mello s'est battu dans ce sens. Je crois que son rôle a été positif, et je crois que la plupart des forces politiques le font leur confiance. Que ce n'est pas tout à fait un équilibre, mais qu'ils essayaient de jouer cet équilibre pour faire en sorte que dans les compromis qui étaient faits, on puisse donner un petit peu plus de pouvoir, par exemple au Conseil transitoire de gouvernement, par exemple aux forces politiques irakiennes. Je crois qu'en Irak, comme partout ailleurs, on n'est pas dans une situation telle qu'on peut négliger tous les moyens pour gagner les positions, les rapports de force plus favorables pour les institutions multilatérales, pour les peuples, pour les progressistes. Les Nations Unies, lorsque c'est possible, il faut s'appuyer sur ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc dans le rôle futur qui peut être celui des Nations Unies en Irak, je crois que ça peut être un rôle positif, mais il faut qu'il soit défini ce rôle en accord entre, disons, les principaux acteurs politiques et sociaux irakiens et les Nations Unies. Ça veut décider, c'est pas à nous. Mais peut-être que les Nations Unies peuvent jouer un rôle politique, pas seulement humanitaire. Humanitaire est très important, évidemment, parce qu'il y a les urgences immédiates humaines pour répondre. Mais pas seulement humanitaire, politique, pour essayer de forcer le destin, en quelque sorte, et essayer de donner des leviers supplémentaires au peuple irakien, aux forces politiques irakiennes, pour trouver des conditions d'une souveraineté plus rapide. Des politiques avec des institutions, avec des interventions plus fortes, plus identifiées, des forces politiques irakiennes. Je crois qu'ils peuvent jouer un rôle. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle en matière de sécurité plus important? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident, c'est aux Irakiens de déterminer. Je crois que moi, il faudra en finir très vite avec l'occupation américaine. Nous sommes contre ces occupations militaires. qui est un obstacle à la normalisation de cette situation. Donc pour en sortir, il faut un processus politique qui donne aux obstacles toutes les clés et les moyens de sa souveraineté pour que lui-même puisse assurer, sa propre sécurité, sa sécurité militaire, si vous voulez, policière, sa sécurité de tous les jours, et puis la durabilité de son administration, de sa gestion, etc. Je crois que là, il y a une exigence politique très forte. Comment les Nations Unies peuvent aider à ça? Moi, je le souhaite. C'est aux Irakiens de le déterminer. Je crois que le Conseil de gouvernement aux écrans victoires devrait être libre de consulter, de demander des aides à toutes les institutions internationales qui peuvent l'apporter, notamment les Nations Unies. Mais je crois que l'exigence, c'est vraiment celle-ci que j'ai rappelée plusieurs fois, c'est l'essentiel, c'est comment on donne au peuple irakien la possibilité d'acquérir le au plus vite la souveraineté pleine et entière, garantissant à l'ensemble du peuple irakien et des forces politiques irakiennes la possibilité d'une alternative démocratique et d'une reconstruction positif, qui soit même démocratique, c'est-à-dire qui profite à l'ensemble du peuple irakien. Parce qu'en fait, c'est un pays qui aujourd'hui a d'énormes difficultés économiques et sociales. Il faudra aider ce pays à sortir de ces difficultés économiques et sociales. Et c'est aussi un problème politique important.
C'était en face de ce qu'il propose, c'était la stratégie des Américains. De inventer la guerre préventive, comme George Bush disait, il faut peut-être la paix préventive en face.
Oui.
parce que par l'expérience que j'avais moi-même dans le mouvement de intermondialiste manifestation contre la guerre, jusqu'à le commencement de guerre, on était fort, on avait des idées. Mais une fois la guerre déclenchée, ce mouvement était un peu déprimé. C'est-à-dire, comme je travaille avec, on n'avait pas idée pour après. Bon, maintenant on reprend le souffle. Le 27 septembre, il y aura une manifestation mondiale organisée par le Forum social mondial pour demander le retrait des Américains. Alors, sur les questions de l'Iran, on va venir sur la dernière question, c'est sur les questions de l'Iran. Alors, on voit que cette menace peut, une menace américaine, intervention en Iran existe, c'est-à-dire, c'est pas militaire, mais c'est politique, c'est diplomatique, c'est économique, c'est de provocation, c'est des fois de quasi quotidien, il y a de provocation. Et qui empoisonne la lutte intérieure de l'Iran. C'est-à-dire, la lutte pour la démocratie est empoisonnée par ce climat de menace extérieure. Alors, et on essaye d'être à l'initiative de la paix préventive, de l'organiser d'avance, de ne pas attendre que la guerre soit déclenchée une fois après qu'on se manifeste au monde. Et sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu peux, comment, de quelle manière tu peux nous aider de la part du Parti communiste français? C'est-à-dire d'organiser, par exemple, des conférences, par exemple, il y a le, enfin, je t'avais envoyé, il y a un comité international pour passage à la démocratie en Iran, signé par Samir Amin, Noam Chomsky et d'autres personnalités, Edouard Saïd, je te l'avais envoyé. C'était un peu quand même étonnant de tout un coup de se trouver en face d'un un comité international, en gérance positive, pour passage à la démocratie en Iran et qui sont contre le menace américain. Alors il y a beaucoup de signatures, beaucoup de personnalités de prix Nobel. Est-ce que tu peux être à l'initiative d'une conférence avec tous les partenaires iraniens, progressistes, et par exemple ce comité international, c'est intéressant quand même, de toutes ces forces, il y a des signatures françaises aussi. Alors, par exemple, ça peut former une relation internationale pour former une force de la paix préventive qui, quand même, est basée sur la revendication de la démocratie en même temps en Iran.
La paix préventive, c'est une formule, cette formule a un sens que nous approuvons. En ce sens, ça veut dire qu'il faut trouver les moyens de sécurité préventive, c'est-à-dire étouffer les conflits avant qu'ils n'éclatent, trouver les moyens politiques, économiques et sociaux pour abaisser les tensions et, au fond, pour, dans les conditions du développement économique et social, de la démocratie, trouver les conditions d'une paix durable. Je crois qu'il y a beaucoup de réflexions sur ce type et je pense que c'est important pour les progressistes de soulever lorsqu'ils le peuvent cette question de la sécurité et des conditions de la sécurité aujourd'hui pour ne pas laisser prise à comment dire la politique américaine pour aller vite et à ceux qui défendent ce type de politique comme quoi la sécurité est au fond l'affaire des militaires. Lorsqu'on produit la guerre, on obtient des instabilités, des crises, etc. Il faut construire la stabilité, la paix et la sécurité sur le développement, la démocratie. C'est une longue haleine, c'est un effort permanent à faire, mais je crois que c'est un choix des communistes et des démocratistes, un choix évident à nourrir dans une bataille politique vraiment de longue haleine. Naturellement, nous, communistes français, nous avons dit et nous tiendrons nos engagements que si la stratégie américaine, l'agression, devait s'appliquer à l'autre pays pirate dans la région, par penser à la Syrie, et aussi à l'Iran, on réagirait, ou la Corée, on réagirait de la même manière, quel que soit. quel que soit le choix qu'on porte sur le régime concerné. Que si l'attaque américaine, l'agression américaine se portait contre la Corée du Nord ou contre l'Iran, qui sont des régimes différents, mais que quiconque, pour des raisons semblables, pour manque de démocratie, nous condamnerions nos émigrations, etc. Ça va de soi. C'est une position de principe. Et nous adopterions une posture semblable à celle que nous avons adoptée pour l'Irak, c'est-à-dire exigence du refus de la guerre et exigence de la démocratie pour les peuples concernés. Troisièmement, d'une part, j'ai un appel, j'ai lu cet appel, je l'avais déjà, et il a été signé à la demande d'amis iraniens. Parce qu'on nous avait demandé les signatures de plusieurs personnalités communistes ou proches du Parti communiste français et trois personnalités intellectuelles françaises, communistes françaises ont signé. Antoine Casanova, qui est historien et directeur de la pensée, Alain Rayot, qui est professeur à l'université Marseille-Saint-Provence, et Jean-Pierre Cahan, qui est un grand mathématicien. De l'Association internationale de mathématiciens, etc. Je pense que c'est bon et qu'il vaut la peine d'être diffusé, etc. C'est pas mal même d'en avoir fait un texte, disons, cautionné ou signé ou soutenu par des personnalités de haut niveau. Ça donne une crédibilité à la démarche. Après, je pense que j'ai un doute sur le fait que les États-Unis s'attaquent à l'Iran. Parler clair. Parce que je pense que l'Iran est un pays qui dispose probablement d'une solidité politique, sociale et institutionnelle beaucoup plus forte que l'Irak. Et je vois mal dans les médias donner un coup de pied dans cette fourmilière, ça serait quelque chose probablement de plus dramatique. Plus chaotique comme résultat que l'Irak, encore, c'est plus dangereux pour les Américains. Je crois qu'ils réfléchiront à deux fois, surtout avec ce qui se passe en Irak. Et je crois que tu décris très bien ce qui se passe, et le trouble politique que ça crée, et les problèmes que ça crée dans toute la région. Il ne faut pas sous-estimer ça. Donc, je n'ai pas d'idée précise sur le type d'initiative qu'il faut prendre. Je pense qu'il y a un certain nombre de pays importants dans la région. Tous les pays sont importants. Les pays qui pèsent plus, c'est le cas d'Iran, c'est le cas de la Turquie aussi. Pour des raisons naturelles. Ce sont des pays très peuplés, une structure, comment dire, une nation en porte. Et je crois qu'il faudra réfléchir pour nous, communistes français, et pour d'autres, aux types d'initiatives, non seulement pour qu'on se comprenne mieux, mais pour qu'on puisse interpréter mieux les évolutions internes de ces pays-là. Nous nous rendons compte, nous, qu'au fond, nous devons regarder les réalités de ces pays-là de l'extérieur, et après, quand ces réalités-là nous viennent, au moment où elles peuvent venir plus facilement parce que la dictature est tombée, les choses changent très vite en Irak, et le contexte intérieur est différent de ce qu'on pensait être. Les choses évoluent très vite. Elles sont très compliquées. En Irak, comme en Iran, c'est plus compliqué, en Iran encore, compliqué aussi en Turquie. Donc nous avons besoin, nous tous, de mesurer les réalités internes de ces pays-là. Donc il faut mieux comprendre, mieux apprécier, sentir. D'une part, et d'autre part, peut-être voir comment établir, construire des convergences politiques qui soient visibles et qui aient une signification politique pour l'ensemble des opinions publiques françaises et européennes. Comment faire? Je n'ai pas d'idée immédiate, je pense qu'il faut mettre ça en réflexion, on verra ce qu'on peut faire, en fonction aussi de l'actualité aussi. Mais c'est une bonne idée, je pense. Moi, je suis très sensible à l'idée qu'il faut faire quelque chose autour de l'Iran et aussi de la Turquie. Ça sont deux pays clés. La Turquie, parce que c'est un pays important du point de vue de la nature même, c'est très lié à l'Europe. l'Iran n'est pas très lié à l'Europe, même s'il y a des liens évidents, historiques, qui s'affichent énormément du fait de son poids, et de ce qui l'a pesé d'ailleurs dans la diffusion d'idéologie dangereuse, dans la France. Et je crois que nous avons tous intérêt à une solidarité forte, parce qu'il nous faut aider, je crois, les progressistes iraniens dans leur diversité, les communistes, les progressistes. Donc il y a un intérêt commun, évident. Donc il faudrait réfléchir en France. Voilà comment je peux répondre à cette question.
Merci.
C'est ça, bien.